La Bigorre, le Béarn et le Pays Basque font partie des 24 territoires d'innovation bénéficiaires du plan d'investissement national de l'État. 20 grandes actions se mettront en place sur ces territoires, notamment dans les domaines de la transition énergétique, de l'économie numérique et de l'agroécologie. Dans ce reportage de Jean-François Courtille, Michel Pellieu, président des Hautes-Pyrénées, explique de quelle manière les trois territoires pyrénéens ont obtenu ce label et quelles retombées en découleront, y compris pour le renforcement de la coopération avec l'Aragon.
L'État a lancé un appel à projet sur ces territoires d'innovation de grande ambition. Alors, les Pyrénées-Atlantiques avaient candidaté seuls, ils ont échoué, et puis ils sont venus nous solliciter, et on y est allé ensemble. Alors, il y a eu une première épreuve écrite, et ensuite une deuxième épreuve orale, où je suis allé avec Jean-Jacques Lasserre, à Paris, au siège de la Caisse des dépôts et consignations, devant un jury pour défendre la candidature de nos deux départements. Et disons que c'est avec succès qu'on a passé cet examen. Je dis examen parce que quand vous avez un jury de 30 personnes et qui sont jeunes et qui sont là en train de vous interroger, il faut défendre le territoire. Bon, voilà, c'est un exercice qui est un petit peu compliqué, mais bon, finalement, on est arrivé parce qu'il y a eu 24 territoires retenus et nous étions au numéro 7, qui est déjà pas si mal que ça. Donc voilà, cette démarche, il fallait surtout pas prononcer le mot tourisme. Et pour moi, c'est un exercice un peu compliqué de pas prononcer le mot tourisme parce que le tourisme dans le département des Hautes-Pyrénées, c'est quand même un des piliers importants de l'économie. Donc on est essentiellement tourné vers tout ce qui concerne la transition énergétique, développement d'énergies nouvelles. Et puis après, bon, disons, c'est le service à la personne, l'information à la personne. Bon, donc on a défendu cela avec intérêt. Bon, je trouve que pour nos deux départements, c'est quand même une bonne chose, bon, parce qu'après avoir obtenu le label territoire d'industrie, on a maintenant le label territoire d'innovation, bon, qui vient en complément aussi de la French Tech, et est aussi un outil de développement du territoire. Notre ami va en parler plus longuement. Et maintenant aussi, on a encore une étape à venir, c'est la création du groupement européen de coopération territoriale entre donc, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Atlantiques et le gouvernement d'Aragon. Voilà, donc des outils qui nous permettent de capter quelques fonds d'État, mais avec le GECT, ça sera aussi des fonds européens, et tout ça dans la démarche aussi de la transition énergétique, de la mobilité, voilà, des choses qui sont utiles pour le territoire, pour développer la méthanisation, pour développer la filière bois, pour développer l'hydrogène, parce que Engie financera vraisemblablement début 2021 un électrolyseur sur la zone aéroportuaire. Voilà, tout ça des choses qui vont plutôt dans le bon sens.
Alors concrètement, des porteurs de projets vont pouvoir à nouveau développer des idées, des innovations. Combien sur les deux territoires, sur le Pyrénées et le Béarn, déjà se sont manifestés ?
Dans ce domaine-là, ils se sont manifestés plus du côté des Pyrénées-Atlantiques. Je n'ai pas les dernières informations. Nous, on va développer, avec le concours de la direction des routes, un projet partenarial public-privé qui a pour objectif, je le disais à quelques instants, d'améliorer l'information des usagers au moment des interventions de viabilité hivernale en secteur de haute montagne. Bon, ça se concrétise par l'équipement d'engins de déneigement avec des nouvelles technologies qui permettent de faire remonter les informations qui seront ensuite mises à disposition du public via Inforoute. Alors là, c'est un domaine que nos techniciens peuvent peut-être développer plus largement. Et ensuite, tout ce qui est après la méthanisation, le gaz de ferme ou autre, c'est quelque chose qui pourra se développer aussi sur les Hautes-Pyrénées. Bon, voilà, il y a quelques fonds d'État disponibles dans ce domaine-là. Et puis, le département sera aussi présent pour accompagner les deux départements.
Quand vous parlez des fonds d'État, ils vont prendre quelle forme ? C'est à quel niveau que ça se situe ? Vous avez déjà un peu une idée des enveloppes ?
Non, enfin, globalement, au plan national, c'est 450 millions d'euros pour une vingtaine de projets, enfin de territoires. Après, comment ces sommes se répartiront, bon, ça doit faire l'objet de la contractualisation, parce qu'on vient d'être retenu, mais tout ça va se définir par un contrat entre les collectivités départementales et l'État, mais on n'en est pas encore tout à fait à ce stade-là.
Au niveau de votre futur partenariat avec l'Aragon, a priori, il se mettra en place à quelle période?
Ça devrait être déjà mis en place. Mais il y a eu des élections en Espagne qui ont pris pas mal de temps, suite des arbitrages au plan national qui ont retardé les choses. Puis après, il y a un peu de formalisme aussi au plan de l'État français. Bon, dans la mesure où on était deux collectivités côté français, il fallait qu'il y en ait deux côté espagnol. Alors, bon, il y a le gouvernement d'Aragon et puis il y aura la province de Huesca, la députation de Huesca, qui sera le quatrième partenaire. Or, c'est des problématiques de formalité administrative, mais ça va se mettre en place très rapidement, peut-être avant la fin de l'année, parce qu'on a déjà pris un peu de retard. Et c'est quelque chose auquel je suis personnellement très attaché, parce que je crois beaucoup à cette coopération avec nos amis de l'autre côté de la montagne. Parce que quand on met les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, plus l'Aragon derrière, on représente pratiquement la moitié de la chaîne des Pyrénées, quoi. Donc, on a déjà mené des actions dans ce domaine-là, au niveau des Hautes-Pyrénées. On a créé des circuits de découverte qui partent, par exemple, de Lourdes. On peut partir par le col du Somport ou par le Portalet, aller faire une virée en Espagne sur les grands sites espagnols, revenir sur les grands sites français par le tunnel d'Aragnouette ou par le tunnel de Viella. Et en même temps, quand on est sur ces itinéraires, il y a toutes les adresses aussi de tout ce qui est les produits locaux, de produits identitaires de ces territoires-là, et une belle mise en valeur de ces produits identitaires. En même temps, bon, ça intéresse les publics, notamment parisiens, bon, des gens qui ont souvent un pouvoir d'achat intéressant ou qui achètent les paniers à très bon prix, quoi. Voilà, donc les Espagnols, l'Aragon nous est très reconnaissant de cette démarche. Donc on va demain, dans le cadre de cette coopération, en rajoutant les Pyrénées-Atlantiques, développer les itinéraires pour aller sur les Pyrénées-Atlantiques, mais peut-être plus vers le secteur Pays Basque, et revenir par le secteur Pays Basque aussi de côté espagnol et l'Aragon. Bon, il y en a des choses intéressantes à faire découvrir, et ça intéresse, je l'ai dit, des publics qui ont des moyens significatifs, quoi, qui achètent les paniers à 20 et 30 000 euros. Quoi.
Alors à la fois ce label territoire d'innovation et puis ce projet de coopération renforcé avec l'Aragon, est-ce que vous en escomptez des créations d'emplois, notamment d'emplois durables sur nos territoires?
Bien sûr, bon, ça va surtout contribuer à soutenir l'économie de ces territoires. Donc en soutenant l'économie, derrière, automatiquement, ça se traduit en principe en création d'emplois, en création, en redistribution de richesses.
À l'instant, c'était Michel Pellieu, président du Conseil départemental des Hautes-Pyrénées. Franck Bouchot, référent technique territoire d'innovation pour les Hautes-Pyrénées, présente un projet qui va permettre notamment de réaliser une information en temps réel sur les conditions d'enneigement des routes en hiver.
En Égypte, c'est l'une des actions retenues dans le cadre de territoire d'innovation. C'est une action qui est portée par deux partenaires privés, dont une jeune pousse de Tarbes, Map Your Dream, une société de Castres qui est spécialisée dans l'avionique, CGX, et le département des Hautes-Pyrénées. L'objectif est double. Il est d'une part d'améliorer l'efficacité du déneigement et d'autre part d'améliorer l'information fournie aux usagers. Donc pour l'amélioration du service de déneigement, il est prévu de mettre en place dans les engins de déneigement, dans les saleuses, un système de capteurs embarqués qui vont automatiquement enregistrer l'action réalisée par l'équipage. C'est-à-dire que lorsque la lame sera baissée ou lorsqu'elle sera montée, l'engin enregistrera que l'équipage est en train de déneiger. Toutes ces actions, toutes ces informations vont être transmises automatiquement par le biais du réseau de téléphonie mobile à un serveur qui permettra aux équipes qui sont en charge du pilotage des opérations, qui permettra de savoir en temps réel toutes les actions qui auront été réalisées. On saura en temps réel quelles seront les routes qui auront été déneigées, quelles seront les routes qui auront été salées, et donc, par déduction, qu'est-ce qui restera à faire. Ça permettra de réorienter directement, en temps réel, et de façon beaucoup plus réactive qu'aujourd'hui, les équipages sur les sections qui restent à traiter. Aujourd'hui, tout se fait par téléphone et par papier. Demain, les équipages n'auront plus qu'à se consacrer, qu'à se concentrer sur l'opération de pilotage uniquement. Donc on est sur l'amélioration du service, la facilitation du travail de l'équipage, la sécurisation également, puisqu'il y a des systèmes qui permettront de savoir si un équipage a un problème, s'il y a un choc, s'il y a des interventions particulières à réaliser. Ça, c'est le versant équipage, le versant service. Maintenant, le versant usager, c'est que ces informations seront directement transmises au système d'information routière qui existe déjà aujourd'hui, qui s'appelle InfoRoute, qui est un service qui est très utilisé. On est sur 400 000 pages vues par hiver, ce qui est assez considérable. Malheureusement, aujourd'hui, les informations qui sont sur ce site, elles proviennent des informations qu'on a récupérées par téléphone de la part des équipages, par téléphone ou par radio. Demain, dès que l'équipage aura fait une action, dès qu'il sera en train de la faire, directement, le système d'information routière saura quelles sont les conditions de circulation sur telle ou telle route, et l'usager aura directement accès à ces conditions de circulation. Là, c'est l'un des versants de ce projet, mais ce n'est pas le seul. On va également mettre en place des capteurs météorologiques spécifiques, des prévisions météorologiques qui seront spécifiques au service de déneigement, et puis également la possibilité pour les équipages d'actionner directement l'information sur le terrain, indiquant aux usagers s'ils doivent ou non mettre des équipements. Tout cela va se faire de façon transparente et automatique, avec l'intervention humaine qui sera concentrée sur ce qu'elle sait faire réellement, c'est-à-dire la réalisation du déneigement, la décision de déneiger, de ne pas déneiger, et l'appréciation des conditions de circulation.
Quel budget représente cette opération et combien de temps va prendre sa mise en œuvre ?
On est sur une enveloppe estimée à un peu plus de 700 000 euros. Un peu plus de 700 000 euros sur 4 ans. 4 ans avec une partie qui reste à développer. Donc les choses seront réajustées en cours de route. C'est un peu l'une des caractéristiques de territoire d'innovation, puisqu'il y a un portefeuille d'action au démarrage. Il y a des choses qui sont novatrices, voire très novatrices, qui sont à développer. Et puis l'idée, c'est que le projet territoire d'innovation puisse s'adapter, s'ajuster en cours de route, intégrer éventuellement de nouvelles actions pour tenir compte de telle avancée technologique ou de telle nouvelle procédure ou de telle nouvelle idée qui viendrait, pour que sur la durée du projet territoire d'innovation qui, elle, est de 10 ans, on puisse mettre en œuvre toutes les actions prévues et puis éventuellement de nouvelles.
Parmi les auditeurs de notre antenne, s'il y a des personnes qui aujourd'hui ont des projets innovants, comment est-ce qu'ils peuvent éventuellement bénéficier de cet élan, de ces dispositifs pour avancer, construire leur projet ?
Le mieux, c'est qu'elles contactent dans un premier temps le département des Hautes-Pyrénées, à mon attention ou simplement à l'accueil, à l'adresse générique, qui ensuite réorientera les choses. On est au démarrage du territoire d'innovation, donc il nous reste plusieurs choses à mettre en place, notamment ce circuit de veille du territoire, de veille des idées, de récollement de toutes ces idées. On est vraiment au démarrage de quelque chose qui est ambitieux, puisqu'on est sur 10 ans, donc 10 ans à l'échelle des projets de territoire, à l'échelle des projets industriels, c'est long. Il ne faut pas oublier qu'on est sur un projet qui repose sur un partenariat public-privé. Donc le temps du privé n'est pas le même temps que le temps public. Donc il nous reste tout ça à mettre en place. Je pense qu'il y aura nécessairement prochainement une communication spécifique sur ce sujet, où on viendra expliquer, où on fera le tour du territoire, le tour des acteurs pour se présenter et puis expliquer comment, si quelqu'un a une bonne idée, et par définition les idées sont toujours bonnes à prendre, comment ne pas les rater, comment les expertiser, les investiguer, les retenir si possible.
Voilà, à l'instant, c'était Franck Bouchot, référent technique territoire d'innovation pour les Hautes-Pyrénées. Et enfin, Patrice Duboué, fondateur de la start-up Lean Connected à Arens-Marsous dans le Val d'Azun, explique son projet innovant. Il permet de développer la connexion autonome solaire à des territoires isolés, comme les bergeries ou les barrages hydrauliques de montagne.
Donc j'ai rénové une grange, une bergerie que je souhaitais équiper pour y vivre, y passer du temps. Et en fait, elle est très isolée vu qu'elle est à 1100 mètres. Donc l'hiver, on peut avoir un mètre de neige. Et elle n'est néanmoins, elle est très connectée aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on peut voir ce qui s'y passe, avoir le niveau de neige, le niveau d'eau. Et je souhaitais mettre à disposition ce système pour équiper des refuges, pour avoir plus d'informations sur les neiges, les avalanches et augmenter le niveau de sécurité. Et il se trouve que cette idée a plu à des industriels qui ont souhaité avoir plus d'informations sur des bâtiments isolés en montagne, là où on n'a aucune source d'énergie, donc pas d'électricité, et surtout aucun moyen d'accès télécom pour recevoir l'information. Donc j'ai créé cette start-up pour créer des modules autonomes, donc ils sont tous alimentés par panneaux solaires et batteries, et qui sont tous connectés, donc quel que soit le système, ça peut être de la connexion satellite, ça peut être de l'amplification de réseaux existants. Et l'idée est venue également de connecter des bergeries. Et là, c'est une histoire plus personnelle et familiale. Mon parrain est un berger, il a 84 ans et depuis tout petit, il a toujours fait la transhumance. Donc la transhumance, les gens ont un peu oublié que c'est un territoire qui est très isolé. Pour lui, il se trouve à 4 heures de marche de la première route, mais également du premier réseau, ce qui est assez rare aujourd'hui. Et il y a quelques années, il s'est blessé gravement et donc il a dû s'accrocher à sa mule qui d'habitude portait les fromages. Et là, c'était pour le ramener à sa voiture et aller en urgence à l'hôpital. Donc là, c'est posé la question, comment remonter en toute sécurité? Et forcément, la famille n'était pas forcément très friande de pouvoir le revoir partir sans avoir un minimum de sécurité. Et c'est de là qu'est venue l'idée de pouvoir connecter la cabane avec un système assez simple d'appel en cas d'urgence. Donc là, on est parti sur l'installation d'un système satellite avec panneaux solaires également et batteries, puisque là on est très loin des réseaux, et ce qui permet au moins une fois par jour d'envoyer un petit message pour dire que tout va bien, ou lorsqu'on est en détranshumance, lorsqu'on doit réunir, il a 600 brebis, lorsque mon cousin doit réunir les 600 brebis, parfois ça prend une semaine, et c'est intéressant de pouvoir se connecter à internet, voir la météo, est-ce qu'il y a des orages, est-ce qu'on doit accélérer ou pas, est-ce qu'on doit descendre. L'an dernier, un chien s'est blessé, ils ont pu appeler le vétérinaire pour avoir des premiers conseils. Donc voilà des exemples assez concrets où comment on peut allier innovation technologique qu'on pourrait croire assez futuriste avec la protection pas uniquement des personnes mais du patrimoine, de la transhumance pour pouvoir voir ces métiers et ces passions perdurer dans le futur.
Alors c'est vrai que les bergers aujourd'hui sont confrontés au grand retour des prédateurs comme l'ours, comme le loup, les hybrides de loups et de chiens. Est-ce que votre système peut permettre aussi d'améliorer la détection, d'éviter qu'il y ait des incidents?
Alors c'est l'une des pistes justement suite à ce projet Gagner Territoire d'Innovation. J'ai déjà développé un système qui permet de prendre des photos, des vidéos en détection de mouvement à certains endroits précis. Donc c'est une piste que l'on peut étudier avec le parc national et avec les GIP, les groupes d'intérêt public des bergers, pour pouvoir assurer une bonne cohabitation, pour protéger à la fois les troupeaux et les prédateurs en les maintenant à distance. Donc l'un des projets d'innovation sera de développer un nouveau système basé sur de nouvelles innovations en télécom pour pouvoir définir des périmètres, on va dire protégés, où on peut détecter l'immersion d'un prédateur, qu'il soit loup, ours, loup, lynx ou autre, et de pouvoir prendre les mesures adéquates pour que chacun puisse protéger son territoire, en l'occurrence pour que les bergers puissent se parquer les brebis. Donc ça passe sur une détection pratiquement en temps réel, voire une anticipation, lorsqu'on voit que la direction de l'ours, du prédateur, prend la direction de notre troupeau. Dans l'idée, il faut pouvoir détecter et surtout prévenir en temps réel. D'où l'idée de ces solutions télécom autonomes, où on peut, à n'importe quel endroit, poser un capteur, un système télécom qui va détecter, informer et protéger.
Alors le fait que le territoire bénéficie de ce label, hein, territoire d'innovation, ça va vous aider pour développer cette activité?
Oui, sur deux axes principaux. Le premier, c'est la communication. Et aujourd'hui, on est un bel exemple. On sait très bien que lorsqu'on crée une entreprise, on n'est pas très connu. Donc la première chose, c'est faire connaître ses solutions pour trouver des usages qui soient appropriés. Donc c'est vrai que l'engouement qui a suivi cette annonce, moi, m'a amené plusieurs prospects et pas uniquement dans notre territoire. Des territoires alpins m'ont appelé pour en savoir plus sur ces solutions. Le deuxième axe, c'est la capacité de participer au cofinancement de l'innovation, pas au financement seul, parce qu'on doit nous-mêmes apporter une brique. Mais l'idée de ce projet, c'est prendre une partie des coûts de recherche et développement pour pouvoir permettre d'aller plus loin, vu que ce sont des solutions qui sont forcément innovantes, donc un petit peu risquées. Donc ça permet de nous encourager à pousser plus loin et investir des nouveaux territoires numériques, mais qui vont être au service des territoires physiques.
Il y a un autre aspect que votre start-up peut permettre de développer, c'est la prévention des crues et des inondations.
Alors ça, effectivement, mon premier client industriel est EDF. Et là, le cas d'usage est de superviser des prises d'eau pour les barrages en montagne. Très souvent, ces prises d'eau sont très isolées, donc loin, encore une fois, des réseaux électriques et des réseaux télécoms. Et il faut néanmoins pour les superviser, pour pouvoir protéger les cours d'eau. Une prise d'eau, ça veut dire qu'on va capter une partie de l'eau d'un tout petit cours d'eau. Et EDF s'assure qu'en temps réel, on ne prend pas trop d'eau. Ça peut être une raison très simple, une avalanche qui va boucher une partie de la prise d'eau, des feuilles en automne. Donc on peut détecter en temps réel si une prise d'eau s'est bouchée, mais on peut également prévoir des crues, vu qu'on reçoit des informations numériques, des photos, des vidéos, ce qui permet depuis quelques mois également d'anticiper des montées des eaux et des crues. Et donc ça intéresse d'autres services tels que l'Indréal pour pouvoir mieux connaître nos territoires. Et on sait que le changement climatique, on a de plus en plus de phénomènes extrêmes. Et si on peut avertir en temps réel et si possible anticiper, on parle d'intelligence artificielle sur l'analyse des images, aujourd'hui, on commence à entrevoir également des solutions qui permettent de créer ces nouveaux services.
Voilà, à l'instant, c'était Patrick Duboué, fondateur de la start-up Lean Connected à Arens-Marsous dans le Val d'Azur. Et ce reportage, nous le devons à notre correspondant Jean-François Courtille.